La voix animale. Une émission de Karine Félix Faure, réalisée par Radiola.
Nous avons tous grandi avec les animaux, souvent à la maison, mais aussi dans les livres, à l'école, pendant nos balades dans la nature et dans notre imagination. Les animaux occupent une place essentielle dans nos vies, non seulement en tant que compagnons fidèles, mais aussi en tant que piliers de l'équilibre écologique. Comme le disait le naturaliste américain Henry Beston, les animaux sont d'autres peuples, pris avec nous dans le réseau de la vie. Et au programme aujourd'hui, les fourmis et la génie du collectif. En ce mois de fête, tandis que le monde et notre pays semblent traversés par le tumulte, il m'a semblé que nous avions besoin d'un peu d'ordre et de clarté. Et voilà que les fourmis, dans leur humble sagesse, nous rappellent qu'une société peut grandir sans éclat ni fracas, simplement en cherchant, ensemble, à s'améliorer pour le bien de tous. Imaginez un instant une ville qui fonctionne sans maire, sans chef, sans police, et pourtant tout y est parfaitement organisé. Les routes sont fluides, la nourriture circule, les constructions avancent et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Cette ville idéale existe, mais elle n'est pas humaine. Elle est souterraine, c'est la fourmilière. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cet univers, qui est structuré de manière extraordinaire. Ces insectes minuscules ont mis au point, au fil de millions d'années d'évolution, une société où l'intelligence collective remplace l'autorité, où la coopération supplante la compétition et où chaque individu contribue au bien commun sans qu'aucun chef ne donne d'ordre. Mais comment font-elles? Comment des êtres si petits dotés d'un cerveau de la taille d'un grain de sable parviennent-ils à construire des structures complexes, à cultiver des champignons, à défendre leur territoire ou à élever leurs larves avec une efficacité que bien des sociétés humaines pourraient leur envier? Pour comprendre cela, il faut d'abord rencontrer les habitants de cette société. La reine, centre de la colonie, dont le rôle est de donner la vie. Les ouvrières, véritables piliers du fonctionnement quotidien. Les soldats, chargés de la défense. Et les exploratrices, toujours prêtes à découvrir de nouvelles ressources. Ensemble, elles forment une communauté sans hiérarchie autoritaire. Tout repose sur la communication et la coordination. Le secret, les phéromones, des signaux chimiques invisibles qui circulent partout et permettent d'échanger des informations précises. Grâce à ce langage subtil, les fourmis bâtissent, récoltent et défendent leur colonie dans une harmonie étonnante. Elles nous montrent que l'intelligence peut être collective, que la force réside dans la coopération et que parfois l'absence de hiérarchie peut produire une organisation redoutablement efficace. Alors, et si en observant les fourmis, nous découvrions une autre manière de penser notre propre société?
C'est un peu comme des chatouilles qui vont de la cuisse aux pieds, les globules qui se dérouillent parce qu'on s'est enfin levé. C'est pas vraiment agréable, on se dit que ça va passer. La raison en est incroyable, quelqu'un me l'a raconté. J'ai des fourmis dans les jambes, qui sait par où elles sont entrées. Faisons le chemin ensemble, c'est elles qui vont me porter. elles peuvent soulever, dit-on, des cargaisons insensées. Mais à combien elles s'y mettront pour un seul comme moi bouger? Ça fait si longtemps que je nage au milieu de mon canapé. J'ai besoin de leur courage. Tout seul, jamais je ne pourrais. J'ai des fourmis dans les jambes. Qui sait par où elles sont entrées? Faisons le chemin ensemble. C'est elles qui vont me porter.
Les mecs, je suis très fier de cette date. On est quand même.
Inertes, étranges et glacés. Mais le monde a plein d'arômes qu'elles doivent m'emmener goûter. Grâce à elles, franchir sans cesse la colline, le monde après. Jusque là où le jour nous laisse croire qu'on peut le rattraper. J'ai les fourmis dans les jambes. Qui sait par où elles sont entrées? Faisons le chemin ensemble. C'est elles qui vont me porter. J'ai des fourmis dans la tête qui commencent à me gratter. Un jour j'arrêterai peut-être. C'est qu'alors j'aurais trouvé.
Sous nos pieds vit un peuple minuscule et silencieux. Elle travaille sans chef, sans gloire, mais avec une sagesse qui relie chaque être à l'autre. Ici, dans leur monde, s'est cachée une leçon pour nous, les humains. Voici le message des fourmis, une histoire lue par Marin.
Un matin de juin, dans le silence encore tiède du monde, une fourmi s'avança hors de sa galerie. Elle leva les antennes vers la lumière, huma le vent et sut que le jour serait grand. Autour d'elle, la colonie vibrait déjà, une mer noire et vivante, en mouvement continu comme un cœur battant sous la terre. Chacune savait ce qu'elle devait faire. Nul ordre, et pourtant tout était orchestré avec une précision sans faille. Les unes transportaient des graines, d'autres des fragments de feuilles. Certaines veillaient sur les œufs, d'autres sur la reine. Pas une ne se demandait « Pourquoi moi ?» Car chez les fourmis, le « moi » n'existe pas vraiment. Il y a nous, et seulement nous. Un jour pourtant, une jeune fourmi, que les autres appelaient Léa, leva les yeux vers le ciel. Là-haut, elle vit les oiseaux, libres et légers, glissant entre les nuages. Et une question, minuscule mais brûlante, traversa son esprit. Et si nous pouvions vivre autrement? Elle en parla à ses sœurs, mais elles ne comprirent pas. Autrement? Mais nous vivons bien. Nous avons tout ce qu'il faut, la reine, la fourmilière et la sécurité. Mais Léa insista. Oui, mais regardez les humains là-haut sur la colline. Ils construisent, ils inventent, ils choisissent leur vie. Peut-être que nous aussi nous pourrions choisir. Les autres secouèrent leurs antennes. Les humains, ils sont forts, c'est vrai. Mais ils oublient parfois ce qu'ils font. Ils détruisent des forêts, brûlent des champs, et même leur propre maison. Crois-tu qu'ils soient plus libres que nous? Ces mots restèrent dans l'esprit de Léa comme une pierre au fond d'un ruisseau. Elle observa alors les humains, jour après jour. Elle les vit courir, se disputer, bâtir, détruire, recommencer. Elle vit leur agitation sans repos, leur désir d'aller toujours plus vite, toujours plus haut. Et un doute grandit en elle. Peut-être que la liberté n'était pas là où elle le pensait. Une nuit d'été, alors que la colonie dormait, Léa s'éloigna du nid. Elle marcha longtemps, jusqu'à atteindre le bord d'un chemin où un enfant s'était assis, pensif. L'enfant la vit, minuscule, déterminée, portant un fragment de feuille 10 fois plus lourd qu'elle. Il sourit et dit doucement « Toi aussi, tu travailles sans fin, petite fourmi. Vous, fourmi, au moins, vous ne détruisez pas le monde. » Léa s'arrêta. Elle leva ses antennes vers lui, comme pour répondre, et pensa très fort « Et vous, les humains, vous avez le don de rêver. Ne l'oubliez pas. Rêver, c'est votre manière à vous de construire des mondes. Mais souvenez-vous aussi, rêver sans écouter la terre, c'est bâtir sur du sable. » L'enfant crut entendre une voix légère dans le vent. Il regarda autour de lui sans comprendre, mais il sentit quelque chose bouger dans son cœur, un souffle de respect ou peut-être de promesse. Le lendemain, Léa retourna à la colonie. Elle reprit sa place dans le grand ballet des fourmis. Elle comprit alors que la liberté n'était pas de s'éloigner, mais de participer pleinement, en conscience, à l'équilibre du monde. Depuis ce jour, chaque fois qu'un humain observe une fourmilière, il peut y voir plus qu'un simple amas d'insectes affairés. Il peut y voir le reflet d'une sagesse ancienne, celle qui dit que la force ne vient pas de la domination, mais de la coopération. Et si les humains apprenaient un jour à s'écouter vraiment, comme les fourmis le font sans un mot, alors peut-être que la Terre deviendrait elle aussi un grand monde harmonieux où chacun aurait sa place et garderait le goût de rêver.
Écoutez, aujourd'hui les amis, c'est samedi. À partir de midi, c'est le bal des fourmis. Elles ont toutes la cadence et le plaisir de la danse. Elles sont toutes bien rangées et démarrent du même pied. Un petit pas à droite, un petit pas à gauche. Aucune tête de caboche, jamais elles ne débauchent. Un petit pas devant, un petit pas derrière. Ne sont pas en galère, souvent dans les premières. Écoutez, aujourd'hui les amis, c'est samedi. À partir de midi, c'est le bal des fourmis. Elles ont toutes la cadence et le plaisir de la danse. Elles ont toutes bien rangées et démarrent du même pied. Toujours très concentrées et bien organisées. Ne voient en aucun cas passer leur journée. Ne se plaignent jamais, car elles savent très bien que le travail, c'est la santé. Écoutez, aujourd'hui les amis, c'est samedi. À partir de midi, c'est le bal des fourmis. Elles ont toutes la cadence et le plaisir de la danse. Elles sont toutes bien rangées et démarrent du même pied. Un petit pas à droite, un petit pas à gauche, un petit pas devant, un petit pas derrière. Un petit pas à droite, un petit pas à gauche, un petit pas devant. Elles reviennent en tournant. Écoutez, aujourd'hui les amis, c'est samedi. À partir de midi, c'est le bal des fourmis. Elles ont toutes la cadence et le plaisir de la danse. Elles sont toutes bien rangées et démarrent du même pied.
Les fourmis sont de minuscules insectes, mais elles forment ensemble l'une des organisations les plus efficaces du monde vivant. Leur secret ? Une communication d'une précision redoutable, une entraide sans faille et une coordination qui défie toute hiérarchie. Commençons par leur langage, la communication chimique. Les fourmis n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Elles parlent avec des molécules. On estime qu'elles possèdent plus de 20 types différents de phéromones, des substances chimiques qu'elles déposent sur le sol ou échangent en se touchant avec leurs antennes. Chaque phéromone porte un message précis comme « Par ici !»« De la nourriture !»« Attention danger !»« Zone à défendre !» ou encore « Besoin d'aide !» Prenons un exemple. Lorsqu'une fourmi découvre une source de nourriture, elle dépose sur le chemin du retour une trace de phéromone odorante. Plus la source est riche, plus la trace est concentrée. Les autres fourmis, en suivant cette piste, renforcent à leur tour la trace chimique, créant un véritable autoroute olfactive. Ce système est si efficace que des chercheurs en robotique à l'Université de Lausanne s'en sont inspirés pour développer des algorithmes d'optimisation collective utilisés aujourd'hui dans la gestion du trafic ou la logistique. Mais les phéromones ne sont pas leur seul moyen de communication. Les fourmis utilisent aussi des signaux tactiles. Elles se touchent avec leurs antennes pour échanger des informations sur leur statut, leur rôle ou la qualité d'une ressource. Certaines espèces, comme les fourmis légionnaires d'Afrique, produisent même des vibrations dans le sol pour alerter le groupe en cas d'attaque ou d'effondrement d'une galerie. La communication est la clé d'un partage exemplaire des ressources. Dans une colonie, tout est mis en commun. La nourriture, les soins aux larves et même le recyclage des déchets. Les fourmis ouvrières stockent parfois la nourriture dans leur jabot social, une sorte de réservoir interne, et la redistribuent ensuite, bouche à bouche, à leurs congénères. Ce comportement, appelé trophallaxie, permet de nourrir efficacement des milliers d'individus. Certaines espèces vont encore plus loin. Les fourmis coupe-feuilles, par exemple, cultivent des champignons à partir des morceaux de feuilles qu'elles rapportent. Ces champignons deviennent leur principale source de nourriture. D'autres espèces, comme les fourmis du désert, recyclent les cadavres de leurs semblables et les déchets organiques pour assainir la fourmilière. Une forme de service public écologique. L'entraide est omniprésente dans leur monde. Lorsqu'une fourmi est blessée au combat, certaines espèces, comme les fourmis matabélées d'Afrique subsaharienne, envoient des équipes de secours. Les fourmis blessées émettent un signal chimique d'appel et leurs sœurs accourent pour les ramener à la colonie, où d'autres les soignent. Des études menées par l'Université de Würzburg ont montré que ces soins médicaux réduisent la mortalité des blessés de plus de 80%. C'est un véritable système de secours organisé, comparable à nos services d'urgence. Les fourmis coopèrent aussi dans la chasse. Certaines espèces, comme les fourmis légionnaires, forment des colonnes de plusieurs centaines de milliers d'individus, capables de submerger une proie bien plus grande qu'elles. D'autres s'organisent en équipe. Pendant que certaines maintiennent la proie, d'autres la découpent et la ramènent au nid. La coordination exceptionnelle des fourmis s'explique par une idée fascinante. La colonie tout entière fonctionne comme un seul être vivant, un super-organisme. Chaque fourmi joue le rôle d'une cellule dans un corps géant. Individuellement, elles semblent limitées, mais collectivement, elles deviennent un système doté d'une véritable intelligence distribuée. Ce concept de super-organisme est aujourd'hui central en biologie. Par exemple, une colonne de fourmis rousses des bois peut rassembler jusqu'à 300 000 individus et couvrir plusieurs nids interconnectés, formant un réseau comparable à un cerveau collectif. Chacune agit localement selon les règles simples, mais le résultat global est d'une complexité impressionnante. Cette efficacité inspire les scientifiques et les ingénieurs. Les algorithmes de colonies de fourmis sont utilisés pour résoudre des problèmes complexes. Trouver les itinéraires les plus courts dans les réseaux de transport, répartir la charge de travail entre serveurs informatiques ou encore optimiser la livraison de colis en ville. En d'autres termes, les fourmis ont inventé bien avant nous les principes de la logistique moderne et de l'intelligence artificielle collective. Les biologistes estiment qu'il existe plus de 14 000 espèces de fourmis connues à ce jour, réparties sur presque tous les continents. Leur biomasse totale serait équivalente à celle de tous les humains réunis. Cela signifie qu'à chaque pas que nous faisons, quelque part sous nos pieds, des millions de fourmis travaillent, communiquent, construisent, recyclent et s'entraident. Elles nous rappellent qu'une société peut être forte, non pas parce qu'elle a un chef ou des règles strictes, mais parce qu'elle repose sur la coopération, la communication et la confiance dans le collectif. Alors la prochaine fois que vous verrez une petite fourmi transporter un grain de sable, souvenez-vous qu'elle ne travaille pas seule. Derrière elle se cache une armée organisée, une communauté soudée et une intelligence collective que les humains commencent à peine à comprendre.
Il n'y aura plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu. Dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers. Premier mot de la première heure, première minute d'un bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, on te fait pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères. Quand on s'aime, ils nous aiment aussi. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Quelque chose a changé. Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous debout est couché sur les fourmis rouges.
En observant les fourmis, on est souvent frappé par leur perfection apparente. Tout semble fonctionner avec une précision d'horloge. Aucun gaspillage, aucune désorganisation, aucune rivalité inutile. Chaque individu remplit son rôle avec rigueur et constance, sans jamais remettre en cause l'ordre collectif. De la plus petite ouvrière à la reine, chacune contribue à l'équilibre général. Cette image nous fascine. Peut-être parce qu'elle résonne avec nos propres questionnements. Et si, pour résoudre nos crises, nous devions nous inspirer de leur modèle? Et si notre avenir dépendait de notre capacité à penser comme une colonie? Imaginons un instant une société humaine fondée sur les principes des fourmis. La solidarité, la communication et la coopération. Une société où l'individualisme cède la place à la synergie, où les décisions se prennent non pas par autorité, mais par consensus ou par résonance collective. Les fourmis nous montrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un chef pour que le groupe fonctionne. Leur organisation n'est pas hiérarchique, mais auto-organisée. Chaque individu, par ses interactions simples, contribue à un ordre global complexe. En biologie et en mathématiques, on appelle ça l'émergence. Un ensemble de comportements individuels crée une intelligence supérieure. Appliqué à nos sociétés, ce modèle pourrait inspirer de nouvelles formes d'organisation, des entreprises collaboratives, des communautés écologiques ou même des systèmes politiques plus participatifs. Les ingénieurs, d'ailleurs, s'en inspirent déjà. Les algorithmes de colonies de fourmis servent à gérer le trafic humain, optimiser les réseaux informatiques ou planifier les chaînes logistiques. En d'autres termes, le monde numérique a déjà adopté la sagesse des fourmis. Et sur le plan humain, une société à la fourmi pourrait être plus durable, plus équitable et plus sobre. Les ressources y seraient partagées, les déchets recyclés, les tâches réparties selon les compétences et les besoins, non selon la compétition. Dans une époque où l'égoïsme, la surconsommation et l'injustice fragilisent nos sociétés, le modèle des fourmis nous propose une autre voie, celle de la coopération radicale. Une société où « je » devient « nous », où l'intérêt collectif prime sur la performance individuelle. Une société sans égo, sans hiérarchie écrasante, sans perte de temps dans la rivalité. Et, il faut le reconnaître, dans un monde en crise, cette idée a quelque chose de profondément rassurant. Mais ce modèle a un revers et il mérite aussi d'être interrogé. Car si la société des fourmis fonctionne si bien, c'est aussi parce qu'elle repose sur un principe d'effacement total de l'individu. Chez les fourmis, il n'y a ni liberté, ni choix, ni aspiration personnelle. Chaque individu naît avec une fonction déterminée, ouvrière, soldate, exploratrice ou reine. Nul ne peut en changer. Il n'y a pas de place pour la créativité, la désobéissance ou la différence. La perfection du système repose sur une soumission totale au collectif. Transposée à l'humain, une telle organisation poserait de sérieuses questions éthiques. Sommes-nous prêts à renoncer à notre liberté pour plus d'efficacité? À notre individualité pour plus d'harmonie? Les fourmis n'ont pas d'art, pas de musique, pas de rêve. Elles ne créent pas pour le plaisir. Ne cherchent pas le sens de leur existence. Elles vivent pour le groupe. Un point, c'est tout. Nous, au contraire, sommes des êtres de conscience, capables d'imaginer, de douter, d'aimer, de désirer. C'est précisément notre imperfection qui fait notre humanité. Si nous souhaitons fonctionner comme des fourmis, nous perdrions peut-être ce qui nous rend uniques. La créativité, la contestation, la capacité d'inventer un autre monde. Une société humaine sans liberté individuelle pourrait devenir une machine parfaitement huilée, mais profondément inhumaine. Alors, que pouvons-nous vraiment apprendre d'elle ? Peut-être par leur obéissance, peut-être pas leur obéissance, mais leur sens du collectif. Pas leur uniformité, mais leur capacité à coopérer sans chef. Pas leur silence, mais leur efficacité dans la communication. Le philosophe Michel Serres disait que les fourmis incarnent une forme d'intelligence distribuée, là où nous, humains, cherchons encore à dominer plutôt qu'à relier. Elle nous rappelle que la puissance du groupe ne vient pas de la contrainte, mais de la confiance. Elle nous montre qu'il est possible de bâtir une société solide sur la base du partage, de la coordination et de l'entraide. Peut-être que l'avenir de l'humanité ne réside pas dans la copie du modèle des fourmis, mais dans l'équilibre entre deux intelligences, celle du collectif qui assure la survie et celle de l'individu qui assure la créativité. Apprendre à coopérer sans uniformiser, à partager sans contraindre, à s'unir sans se dissoudre. En conclusion, les fourmis sont de petits êtres, mais elles portent une grande leçon. L'avenir appartient à ceux qui savent collaborer. Elles nous rappellent que l'intelligence ne réside pas toujours dans la tête d'un seul, mais dans les liens qui unissent plusieurs. Et si nous parvenions, nous aussi, à penser comme une colonie, alors peut-être pourrions-nous bâtir à notre échelle une société aussi forte que celle des fourmis.
Et voilà que cette émission se termine. C'était La Voix Animale. Un grand merci à Pauline Lemaire des Marais pour la réalisation technique de cette émission et à Marin du Coédic pour la lecture. Alors, je ne vous dis pas vraiment au revoir, mais plutôt à plus. Je prends un peu de temps pour réfléchir à la suite et surtout pour m'occuper un peu plus de mon site, lavoixanimale.com, toujours autour de ces passionnants animaux. Il y aura peut-être une petite pause, mais promis, c'est pour mieux revenir. Restez à l'écoute, restez curieux, parce que les animaux n'ont pas fini de nous parler.